Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans les meilleurs moments de Rotten sans flamme, votre émission foot de référence tous les soirs 18h-20h sur RMC du lundi au vendredi. Jérôme et toute la Dream Team sont au repos, en vacances, on les embrasse tous. Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Pascal Olmeta, Jean-Michel Larquet, Younes Belhanda, toute la Dream Team, Benoît Costil. Vous les retrouverez le 5 janvier, lundi 5 janvier, rendez-vous 18h pour la deuxième partie de saison. Mais profitons de cette période pour réécouter les meilleurs moments et du lourd jusqu'à 19h avec un débat sur l'OM dans un instant. Est-ce que l'OM doit être ambitieux cette saison? On avait fait le débat avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Un procès à 18h30, le procès des supporters strasbourgeois qui s'étaient mis en grève à l'époque. Et puis le Allo Jérôme, un Allo Jérôme mythique à 18h45, celui de Jean-Louis Leca, directeur sportif de Lens, qui avait fait le point à sa façon sur l'imbroglio Sinayoko. Allez, c'est parti pour le débat sur l'OM.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Et l'égalisation marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang.
On commence à montrer c'est quoi le vrai visage de Marseille et on doit continuer comme ça.
Sans le but ! Ah ben c'est pas possible ! Le but de l'Olympique de Marseille ! L'OM qui vient toucher les espoirs strasbourgeois.
Ça fait plaisir. Sincèrement, super heureux. Je pense que je suis devenu même un supporter marseillais, franchement.
Le coup de sifflet final de Monsieur Jérémy Pignard. Marseille, après avoir remporté le classique, s'offre peut-être une belle route dans ce championnat de France.
Dans le fion, Jérôme, allez l'OM.
C'est bien pour la création du groupe qu'on est en train de mettre en place aussi, c'est positif.
Avec cet entraîneur-là, tu ne peux plus te cacher, tu es obligé de jouer le titre.
J'étais le plus grand des grands fantaisistes.
Il va fort.
Obligé de jouer le titre.
Oh, c'est dingue. Incroyable.
Alors, c'était le match d'après pour l'OM. Les Marseillais l'ont bien négocié. Cette victoire 2-1 à Strasbourg vendredi soir. 4 jours seulement après l'expo face au PSG. Les entrées de Greenwood, Obam, Emerson et Pavard ont fait la différence. Marseille est revenu à 3 points du PSG et de Lyon. Parlons-en avec Florent Germain à Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut à tous.
C'est vrai Flo. Oh. Souviens-toi. À l'issue de la trêve internationale, on craignait le pire pour les Marseillais.
L'enfer.
Une sorte renforcée de cette série de matchs compliqués.
Non mais c'est un peu ça, c'est vrai qu'on annonçait cet enchaînement de tous les dangers, c'était un peu le thème des débats et même ça revenait dans la bouche des supporters de s'inquiéter par rapport à l'enchaînement Madrid-Paris-Strasbourg et puis il y avait du coup ce premier match de Ligue des Champions à domicile, une compétition bon qui ces derniers temps ne sourit pas aux Marseillais quand il la dispute, donc on se disait ouh, comment l'OM et comment Roberto De Zerbi vont arriver sur ce match-là. C'est un peu le contraire qui s'est produit. Alors tout n'est pas parfait dans le jeu, ça je pense que même au sein du vestiaire, on en est conscient, mais il y a quand même un OM qui montre du caractère, qui est revigoré. Il y a une ambiance très sereine, voire hyper conviviale pour des joueurs qui se connaissaient très peu, donc quand ils sont arrivés à l'OM. Alors, on a posé la question aujourd'hui à Roberto De Zerbi, comment il explique qu'il y ait déjà cette osmose dans le vestiaire et cette qualité parfois retrouvée, en tout cas les victoires. Écoutez, il reste modeste, le coach de l'OM.
No, i giocatori nuovi hanno portato freschezza, hanno portato.
Les nouveaux joueurs déjà ont beaucoup apporté de la fraîcheur, de l'expérience, de la qualité bien sûr.
Società.
Et ça c'est le mérite du club, de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria.
Quand un
entraîneur a des joueurs aussi forts que Pavard, Palmieri, Aubameyang ou Greenwood sur le banc, c'est différent, c'est plus facile.
È diverso che non averli, no?
Il y a donc un climat vraiment positif. Mais bon, on est à Marseille. Il faut garder les pieds sur terre parce qu'on peut vite passer de l'enthousiasme à la crise.
Per trovarsi da a una crisi.
Et je pense que cette petite phrase, elle illustre bien la prudence qui règne quand même du côté de l'OM. Alors oui, on célèbre les victoires contre Paris où il y a eu des scènes de joie assez fortes dans le vestiaire à Strasbourg. Mais malgré tout, l'OM n'annonce pas d'objectif en Ligue des Champions parce que voilà, il marche sur des œufs. Et en Ligue 1, je pense pas qu'on reprenne les Marseillais tout de suite à parler du titre ou à concurrencer le PSG. Ils ont appris de la saison passée, donc même aussi en championnat, ils restent assez prudents. Ça va être dur, Benoît, de leur faire dire on joue le titre cette saison. Peut-être Eric Dimeco, il pourra, mais
peut-être.
Les joueurs marseillais, je suis pas sûr.
Et on peut compter sur Pascal Olmeta hein, qui sera là. Eric, on va essayer. Pascal, c'est sûr, ça arrivera demain. L'OM doit-il être ambitieux en Ligue 1? 32-16, Flo, tu restes avec nous. Jérôme, est-ce que tu veux un OM ambitieux en Ligue 1?
Non, mais l'OM, il est ambitieux en Ligue 1. De toute façon, l'année dernière, ils étaient ambitieux aussi. Donc moi, ça me fait rire cette phrase-là. Ça veut dire quoi, ambitieux? Là où je rejoins De Zerbi, c'est qu'il y a une euphorie aujourd'hui parce qu'il y a 3 victoires de suite en Ligue 1. C'est très bien. Et comme le disait Flo très justement, et j'en fais partie, on leur prévoyait l'enfer avant cette série, après la trêve internationale, avec une équipe qui avait changé de tout au tout. Difficile de tirer le max de joueurs qui ne se connaissent pas dans le vestiaire, même si ça reste des joueurs très expérimentés, il faut apprendre à se connaître. Du moins, c'est l'alchimie d'un vestiaire. C'est pas en claquant des doigts et juste sur une ou deux séances que tu crées une ambiance de vestiaire. Et là, c'est vrai que De Zerbi, le staff, Benatia avec, certainement, il est aussi responsable avec Longoria. L'ambiance du club a fait que ces joueurs-là se sont vite sentis bien ensemble. Avec De Zerbi, donc, qui met en place des choses, et en effet, il y a quelque chose qui a été criant d'entrée, et on l'a vu sur le déplacement contre
à Madrid.
Le Real, c'est l'état d'esprit qui avait évolué avec des joueurs d'expérience. Des joueurs d'expérience, ça veut dire quoi? C'est des joueurs qui ont déjà gagné des grandes compétitions, qui ont joué dans les meilleurs championnats. Et donc qui apportent, si tu veux, leur conscience professionnelle et surtout la remise en question, parce qu'elle est importante à Marseille. Que tu t'appelles Pavard ou Aguerd ou d'autres, ce que je veux dire, ou Aubameyang qui revient aussi à Marseille, si tu mets, t'arrives en te disant moi je suis champion du monde, je suis champion d'Europe, je suis ceci, meilleur buteur, tu peux pas y arriver. Par contre, si tu viens dans ta tête à vouloir mettre en place quelque chose qui t'a apporté au très haut niveau, ça fait que l'état d'esprit il a évolué. Moi je vois un Marseille conquérant aujourd'hui. Alors à défaut, en effet, et c'est peut-être le petit bémol, mais c'est normal aussi que tactiquement il y a encore des choses à corriger. Ils doivent s'améliorer sur plein de choses. Sur le match à Strasbourg, c'est exactement ça. Mais pour gagner en Ligue 1, même à Strasbourg, ça suffit pour l'instant. C'est-à-dire que le caractère il est là, ils doutent pas. Et puis t'as un entraîneur qui les pousse à aller vers l'avant un peu plus, avec une prise de risque différente par rapport à l'année dernière, et ça donne une équipe de Marseille qui pour l'instant est sur une bonne série. Donc bien sûr qu'ils vont la garder, cet état d'esprit là ils vont même s'améliorer. Donc moi je pense qu'en Ligue 1 ils feront mieux que l'année dernière. C'est-à-dire que
deuxième l'année dernière, l'écart.
Mais l'année dernière c'est 9 défaites sur la saison pour un deuxième de Ligue 1. C'est une anomalie. Donc déjà l'objectif de Marseille c'est de gagner plus de matchs et de perdre moins de matchs. Bon, ils en ont perdu deux sur le mois d'août.
Alors normalement, quand tu perds moins, tu en gagnes plus.
Non, tu peux faire des matchs nuls.
Tu peux faire des matchs nuls.
Donc moi, je pars du principe que Marseille doit pas perdre 9 matchs cette année. Ils en ont déjà perdu 2. Donc ok, ça c'est possible. Si c'est le cas, ils vont se rapprocher du Paris Saint-Germain, parce que je pense que la saison du PSG s'annonce compliquée avec les blessures, avec les trucs, et tu sais que le premier trimestre il peut être raté aussi, et tu peux avoir des piqûres de rappel en termes de résultats. Et donc ça veut dire que le PSG, au lieu de faire tant de points là, en fin d'année, ils en feront peut-être un peu moins. Si Marseille en fait un peu plus, ça va rapprocher.
C'était la corrélation des deux. Saison historique du PSG et l'OM qui avait 9
défaites. Ça va rapprocher, mais bon, après moi je fais pas partie
ça y est, tu crois à la course au titre.
Non, mais je fais pas partie de cela. Je finis comme ça et je vous donne la parole, Eric et Duga. Il y a trop d'écart aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain dans la façon de fonctionner et tout ça. Je pense que Marseille, avec l'accumulation des matchs, ils vont se faire rattraper en termes de résultats par
ils
moment.
Ils vont se rapprocher, mais pas suffisamment
non,
pour.
Je pense pas. Il y avait plus de 20 points l'année dernière quand même. Donc
19.
19 points. Donc s'il y en a 10, écoute, pourquoi pas.
Avant qu'Eric nous dise que l'OM va être champion, Duga, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais je pense que Marseille a toujours été ambitieux. Après, ils ont appris de leurs erreurs. Rappelons-nous, la saison dernière, ça n'avait pas trop mal démarré non plus. Et ça a été de catastrophe. Ils ont commencé à s'énerver, à râler après les arbitres, à râler après les décisions. Et ça a été du grand n'importe quoi avec un seul match par semaine. Là, il faut garder son calme. T'as un match tous les trois jours. Donc, t'as pas le temps de t'énerver. Après, ce qui est fait, est fait. Moi, ce que je remarque dans cette équipe, c'est la grinta et la volonté et le courage des joueurs qui ont été recrutés. Les mecs qui sont arrivés dans cette équipe avec beaucoup d'humilité, malgré un vrai statut pour certains, que ce soit Aubameyang, Pavard, Palmieri, Aguerd, voilà, ils auraient pu arriver avec quelque chose d'un peu suffisant, pas du tout. Les mecs, ils ont remonté le bleu de chauffe et des fois ils mettent à la tête ou d'autres mettraient pas les pieds. Je vois une volonté de se dépasser, de défendre, de montrer beaucoup de courage.
Il avait ça l'an dernier quand même, du gars.
Ouais,
il avait ça l'an dernier.
Un peu plus. Ouais, mais alors avec peut-être avec beaucoup plus de maladresse, avec Cornelius, avec
oui, voilà, c'est surtout la qualité,
avec tout ça. Je trouve que voilà, c'est ils étaient courageux, certainement généreux aussi, mais à leur manière, et ça manquait aussi tellement d'anticipation, de sens du jeu, du sens du déplacement, du sens du marquage, l'agressivité. Attends, là, les Marseillais, ils sont d'une agressivité totale, et parfois, alors j'allais dire à la limite, non, c'est pas la limite, parce que tant que l'arbitre siffle pas, t'as le droit de jouer, mais quand même, à Gert, il peut prendre le rouge aussi. Quand face à Paris, il y a aussi beaucoup de fautes. Bon, voilà, c'est une équipe qui rentre dedans, qui a pas peur. Il lui manque aujourd'hui la qualité. Bon, c'est certain, on se régale pas.
Mais est-ce qu'ils ont les joueurs pour avoir de la qualité offensivement, notamment
en Ligue? Ah non, mais non, si, ils ont les joueurs pour, et l'entraîneur pour faire autre chose et pour proposer quelque chose de mieux. Après, imagine, t'es loin d'être exceptionnel dans le jeu et t'arrives à gagner les matchs. Donc voilà, tout est bénef. Marseille est dans la confiance. Marseille, voilà. Après, c'est quoi l'idée de Marseille? L'idée de Marseille, c'est d'être, comme ils disent là-bas, c'est être à la Gachon. C'est-à-dire que tu t'attends au coin du bois. Si c'est une saison où Paris est pas dans une belle année, où a beaucoup de blessés, et ben toi tu les colles, et puis peut-être qu'il va se passer quelque chose. Attends, souvenons-nous quand même quand Paris a pas eu le titre, que ce soit face à Lille, face à Montpellier, quand ils ont pas eu le titre, même si c'est plus du tout la même équipe. Et il faut être derrière. Et si Paris a des blessures, et ben il faut être là pour pouvoir passer, parce qu'il faut pas avoir de regrets. Imagine Paris, il faut une saison, je sais pas moi, à 4, 5, 6 défaites. J'en sais rien, ça me paraît improbable. Mais imaginons, avec beaucoup de blessés, ils font jouer beaucoup de jeunes, c'est une année de transition, c'est un peu compliqué, ils ont voulu pas recruter beaucoup de joueurs. À l'arrivée, ils vont se retrouver dans la panade avec une seule recrue dans le champ. Peut-être qu'ils ont fait une mauvaise intersaison, on sait jamais. Ils peuvent la rattraper à l'intersaison d'hiver, c'est certain. Mais on sait jamais, il va falloir que Marseille soit là juste derrière pour pouvoir leur passer devant, et surtout pour pas avoir de regrets si Paris ne fait pas la saison escomptée.
Ça a souvent été le discours poli pour dire on joue le titre, enfin poliment, sans trop prendre de risques. À l'époque, Villas-Boas, il disait ce que vient de dire Duga, si jamais Paris n'y est pas, notre devoir c'est d'être en embuscade. C'est un peu le discours, c'est-à-dire qu'ils vont pas annoncer leurs objectifs, mais avec les blessures, avec les cils et là, une saison compliquée. Après, si c'est pas pour Paris, il faut que ce soit pour Marseille.
En après gros, Flo et Eric, c'est pareil, du moins on a été dans un vestiaire, quels que soient les moyens de la meilleure équipe de France. Moi, en l'occurrence, à l'époque, c'était Lyon qui dominait. Quand tu commences avec Monaco, avec Marseille, avec le Paris Saint-Germain, l'année, t'as envie d'être champion. Dire, t'es pas obligé de l'annoncer, mais bien sûr que l'objectif des joueurs, c'est de dépasser le PSG pour être champion.
PSG champion.
Ils peuvent pas. Le joueur aujourd'hui, je prends Rouli par exemple. Rouli, il va pas se dire, oh ben non, écoutez, moi j'ai envie de finir à 10 points du PSG. Non,
il a envie d'être champion. Tu prends Rouli, justement, il a changé de discours. Il y a un an, il annonçait clairement ses intentions. Il disait, moi, je suis venu à Marseille, on est venu à Marseille pour lutter contre Paris. Je lui ai posé la question il y a 15 jours. Il nous a dit, bah écoutez, ce que j'avais pas prévu, en gros, c'est qu'on tombe sur le meilleur Paris de l'histoire.
C'est vrai.
Et donc, ils ont quand même pris un coup derrière la tête par rapport aux 20 points d'écart.
Mais Flo, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, certainement que
ça, ils verront ça au printemps, s'ils sont encore.
Est-ce qu'Eric peut nous dire que l'OM va être champion alors?
La Gachon.
Eric, à toi.
Non mais,
allez, Eric, sois courageux là. Du gars, aide-le à être courageux là.
Il suffit de regarder.
On va renvoyer au printemps encore.
Allez là, Eric, allez.
Il suffit de regarder ce que l'OM a fait la saison dernière, de regarder le recrutement pour te dire que être deuxième de ce championnat, c'est le minimum syndical. Allez. Et si tu t'amuses en plus à regarder les budgets.
Allez,
je crois que l'OM est à 300 000. Je crois que l'OM. Donc, si vous voulez pas que je parle?
Si, vas-y.
Non, pas le budget.
Ah, non, mais si vous voulez pas que je parle, vas-y, dites, vas-y, je parle pas, moi.
On veut que tu y ailles, Eric. Vas-y.
Voilà. Pardon, donc, l'OM 300 millions de budget, les suivants, c'est 150. Donc, tu as quand même un coussin pour, jouer cette deuxième place. En plus, tu fais un recrutement.
C'est pas 300, Eric.
C'est-à-dire, oui, c'est entre 260 et 300.
C'est un petit peu moins de 300, c'est autour de 260
millions. Et PSG,
260. 270. De
870. 850.
Paris, c'est trois fois plus.
850.
Ouais. Voilà. Trois fois plus. Et les autres, c'est pratiquement deux fois moins derrière, hein. On est d'accord. Si, je crois que c'est 140.
Monaco, c'est 140 et le PFC, 130.
Voilà, après. Donc c'est ça, c'est la moitié moins. Donc tu en finissant seconde, tu es dans ton objectif, l'objectif que tu as atteint l'an dernier. Malgré tout, même s'il y a eu un coup de chaud à un moment donné, c'est peut-être pour ça que le coach de Zerbi s'enflamme pas aujourd'hui, parce qu'il s'est rendu compte l'an dernier que tu peux te mettre dans ce club-là le feu tout seul, même quand tout va bien. Parce que l'an dernier, souvenez-vous, hein, quand il passe à 5 défenseurs, il a une bonne période. D'ailleurs, c'est l'équipe qui est le plus souvent deuxième de toute la saison. Et malgré tout, on est arrivé à se mettre le feu. Donc c'est pour ça qu'il a ce discours malgré tout prudent. Vous avez tout dit, le devoir de l'OM, c'est d'aller chercher cette deuxième place et d'être là si le PSG fait une saison moyenne. Ouais. Saison moyenne, ça veut dire que tu as beaucoup de blessés, puisque on est obligé malgré tout de parler de l'adversaire de l'OM. Tu as pas beaucoup recruté, tu as beaucoup de blessés, tu as une Ligue des Champions qui te prend la tête et pendant laquelle tu perds du monde et du coup tu perds quelques matchs. Ben l'OM doit être là. Voilà. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que l'OM est plus fort que l'an dernier, parce que le gros défaut de l'OM l'an dernier, c'était de prendre des buts contre n'importe qui.
C'est l'inconstance. Ouais, bah ouais.
Voilà. L'inconstance, c'est surtout cette faculté à prendre des buts, même contre les équipes moyennes. Ouais. Et à la maison, vous vous souvenez d'Auxerre. Voilà, vous vous souvenez d'Auxerre. Il y en a d'autres, de même certains matchs comme bien tournés, mais tu prenais quand même des buts. Mmh. Donc, et j'ai été longtemps inquiet sur le recrutement, parce que je les voyais pas arriver, ces défenseurs, à part Medina, ouais. Je les voyais pas arriver et comme par magie et par bonheur, les Pavard, Aguert, Emerson, ils arrivent juste à la fin et ça te change ton équipe. Ouais. Dans nos débats avec Dugas l'an dernier, où Dugas lui était très exigeant sur De Zerbi, mon propos c'était de dire, il a pas choisi ses joueurs et il fait avec ce qu'il a, obligé de changer son système. Là cette année, il a tout ce qu'il faut. Hein.
Ouais,
notamment défensivement sur le, tu peux jouer à 3, à 4, des couloirs pas couloirs. Des pistons pas pistons, des défenseurs centraux dans les couloirs, puisque Pavard et Medina sont capables de le faire.
Eric, je donne le calendrier de l'OM à venir. D'ailleurs, en Ligue 1, c'est déplacement à Metz, réception du Havre, déplacement à Lens, réception d'Angers. Donc là, il y a plein de matchs où tu peux prendre beaucoup de points. Donc tu vois,
tu peux faire le plein.
Tu peux aller engranger.
Si Marseille veut rester là-haut, oui. Ben, ces matchs-là, Metz, Le Havre, il faut déjà faire tourner le compteur. Tiens, avant d'aller chercher des matchs dans un mois.
Angers aussi.
Thibaut, supporter marseillais, nous rejoint en 32-16.
Salut Thibaut.
Salut les gars.
Bon, salut Thibaut. Bon, alors, toi aussi, t'es ambitieux. Bah, t'es très ambitieux.
Moi, je suis ambitieux, j'ai envie de m'enflammer aussi, évidemment. Victoire au parc, on se fait un peu
voler à Madrid. Au parc, c'est dans tes rêves, mais au Vélodrome déjà, c'est pas mal.
Exactement, belle réaction contre Strasbourg et tout, mais moi je reste quand même un peu sur mes gardes, parce que moi j'ai vu une scène qui m'a fait bizarre. Quand on gagne contre Paris, je sais pas si vous avez vu à la fin du match, après le coup de sifflet final de Zerbi, il sort du banc. Il se met à courir tout seul sur le terrain, il vient enlacer son staff, ou plutôt son staff vient l'enlacer, mais à aucun moment il va vers les joueurs.
C'est un faut que tu regardes la scène demande, dans le vestiaire là, à Strasbourg.
Ah, il faut regarder dans le vestiaire, ouais.
Sur le coup à Paris, c'est bizarre. T'as envie d'aller relever tes joueurs, t'as envie d'aller les féliciter. Ils viennent de gagner Paris, ils ont tout donné. Et il n'y a pas une interaction. Et donc je me dis, tu vois, déjà depuis l'histoire Rabiot, tout est peut-être pas bien passé. Et puis après, voilà, je me dis, ce type, c'est quand même une bombe à retardement. Il est sanguin, il prend des rouges. Et du coup, je me dis, ce mec, en fait, il est pas maîtrisable, quoi. Et je pense que c'est Benassia qui tient tout.
Le recrutement, c'est lui, hein.
C'est Benatir. Bon, je pense qu'ils l'ont fait ensemble aussi, hein, par rapport aux demandes qu'il avait. Mais moi, je voulais, Thibaut, réagir sur De Zerbi, parce que moi, je veux bien, pendant le match, là, ce qu'il fait contre Paris, quand il se fait expulser, c'est une connerie. Il l'a même reconnu derrière. Ouais. Mais après, tu bats Paris au stade Vélodrome. Ça fait 14 ans que t'attends ça. Je pense que, vu le début de saison et le mauvais mois d'août, il s'y attendait pas d'avoir un Marseille peut-être à ce niveau-là. Donc plus l'ambiance, je sais pas si t'y étais, mais j'imagine.
Ah non, j'étais pas. J'étais devant la télé.
Non, mais j'imagine que nous, quand on était sur le terrain, quand ça se passe bien, t'as un stade comme ça qui est chauffé, c'est incroyable. 60 000 personnes qui veulent échanger, communier. J'imagine que personnellement, De Zerbi, il est fier de ça. Il a envie de profiter de cette communion. Donc c'est trop dur de tomber sur lui, quoi.
Non, mais il faut faire attention aux images.
Moi, j'ai souvenir de plein de scènes après Paris où il célèbre avec les joueurs. Donc en fait, je pense qu'on n'a pas vu le même après-match. Ou alors je suis très surpris. Bon,
non, mais c'est pour ça qu'il faut faire un petit mot là-dessus.
Après Strasbourg, il y a eu des scènes même dingues où il monte sur la table, où il se prend les bras avec Højbjerg. Et justement, Højbjerg fait partie des joueurs qui ont mal vécu l'épisode Rabiot parce qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé. Il était proche d'Adrien Rabiot. Il y a eu une connexion même, je trouve, assez express avec certaines recrues. Donc enfin, il y a peut-être des problèmes sûrement à l'OM, hein, mais je pense pas que ce soit dans la relation entre De Zerbi et les joueurs, loin de là.
Mais Thibaut, dernier mot là, il est encore là, Thibaut ?
Ouais,
Thibaut, ouais, dernier mot, tu vas être champion ou pas alors ? Parce que Eric veut pas le dire, mais bon.
Eric, il est à deux doigts de le dire.
Évidemment qu'on va être champion.
Et toi, Eric, qu'est-ce que t'en penses ?
Le dernier, ça a porté chance, le dernier qui a dit ça.
Est-ce que l'OM va être champion ?
Et comme dit Pascal, ouais, toi, je suis
champion. Il l'a dit.
Parce que, en réalité, je vous connais par cœur. Vous voulez qu'on le dise pour l'enregistrer et pour le passer après toute l'année. Oui. Et surtout, quand ça marche mal à l'OM, là, vous le passez. Voilà, je vous connais.
On n'est pas comme ça, Eric.
Mais Pascal, il n'a pas dit on va être champion. Il a dit que Jérôme, on va être champion.
Merci Thibaut d'être venu au
32-16. C'est un match nul à Angers.
Exactement. Merci Florent Germain. À demain.
Merci.
Et demain, c'est
mardi. On se dirige vers un forfait de Léo Ballardi.
Ah oui,
en tout cas, il est très incertain. Il n'était pas à l'entraînement tout à l'heure à la commande.
Ah, on parlait en bien. Là, tu nous as plombé nos ambitions. Ballardi qui n'est pas là.
Il y a moyen de le remplacer.
Pavard-Aguerde qui peut faire le taf.
Voilà, toujours un grand moment. C'est débat OM avec Christophe Dugarry, Eric Dimeco. Dans un instant, on parle de Strasbourg dans le procès de Rotten sans flamme. On avait fait le procès des supporters strasbourgeois qui s'étaient mis en grève. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. On embrasse Jérôme Rotten et toute la Dream Team. Retour le 5 janvier dans un quart d'heure. Allô Jérôme, un moment mythique de cette première partie de saison avec le sacré coup de gueule de Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens sur l'imbroglio Sinayoko. La brouille entre Lens et Auxerre sur ce dossier. Et puis à partir de 19h, le jeu de la vérité avec ce soir les passages de Pascal Olmeta. C'est un moment mythique. Donc soyez là jusqu'à 20h, ça va être fantastique. Mais tout de suite, c'est le procès des supporters strasbourgeois. C'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
On a dépensé nos salaires pour le club. On a passé nos week-ends pour le club à pousser des joueurs inconnus dans des patelins, on savait même pas où c'était. On a passé nos week-ends pour reconstruire une ambiance à la Méno, montrer une belle image de notre ville. Aujourd'hui, qu'est-ce que je comprends, moi, c'est que on dérange, on est trop contestataire, on veut nous remplacer.
Le procès de Rotten sans flamme.
Un nouvel épisode dans le conflit qui oppose certains ultras strasbourgeois à la direction du Racing. La semaine dernière, Marc Keller a annoncé des sanctions contre 4 groupes de supporters, auteurs de banderoles insultantes. Ils protestent, on le rappelle, contre la multipropriété et notamment l'annonce du transfert du capitaine Emega vers Chelsea, la pose avec le maillot alors qu'il va passer la saison à Strasbourg. Aujourd'hui, les 4 groupes concernés ont annoncé qu'ils n'encourageront pas leur club demain soir dans le match face à l'OM, match à suivre sur RMC dès 20h45. Grève totale pour ses supporters jusqu'à nouvel ordre. Alors ce soir, ouvrons le procès des supporters strasbourgeois qui se mettent en grève. 2 procureurs, Manu Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Et Tony Vérel, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
L'avocat du peuple et des supporters, c'est maître Jérôme Rotten, bonsoir.
Parce que j'ai pas oublié, bonsoir.
Et le verdict sera rendu par un supporter strasbourgeois, c'est Cyril qui est là au 32-16. Salut Cyril.
Bonsoir.
Bonsoir Cyril.
Merci d'être là.
Merci Cyril.
La parole à l'accusation, Monsieur Petit.
Tony, tu veux qu'on commence ?
Ah vas-y Tony, tu veux démarrer ?
Oui, alors moi je vais donner mon avis. Si toi tu seras peut-être encore plus pointu que moi, mais c'est vrai que sur ce débat, il faut être vigilant surtout parce que en fait moi, pourquoi je défends le club aujourd'hui ? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un club, de savoir ce que c'est, de les difficultés, le sacrifice que ça demande. Moi, on sait très bien que moi, les supporters ont toujours été dans mon cœur, dans tous les clubs où j'ai été, et je comprends tout à fait qu'ils puissent être en colère. Mais ce que je veux juste expliquer, c'est que quand on a un club de foot et qu'on veut essayer d'atteindre les sommets le plus possible, à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Il faut avoir l'appui, que ça soit des politiques, que ça soit peut-être des clubs un peu plus puissants que celui dans lequel on est. Moi, j'ai fait cette erreur avec Guignon quand j'ai repris le club de Guignon. C'est que je pensais que mon expérience footballistique pourrait m'aider à faire les choses peut-être seul, avec des bons joueurs, à savoir mieux recruter qu'un autre, à être... Et en fait, tu te rends compte que si t'as pas derrière toi les politiques, et moi c'était même l'inverse, moi on m'a mis des bâtons dans les roues, mais si t'as pas les politiques qui te suivent, si t'as pas d'autres clubs qui vont te prêter des joueurs, qui vont te permettre de pouvoir jouer les premiers rôles en Ligue 1, bah tu vas te retrouver soit à descendre en Ligue 2, soit à un moment donné à galérer. Et moi, je pense que le club de Strasbourg, avec la personne en plus de Marc Keller, que je connais bien et qui est un amoureux de sa ville en plus,
de
son club et de sa ville, je pense qu'il y a personne de mieux placé que ça. Moi, on m'a reproché, par exemple, de pas être de Guignon, de pas ci, de pas réussir, de pas habiter à Guignon. Tu te rends compte, parce que j'habitais pas à Guignon, c'était un scandale. Alors que le maire lui-même n'habitait même pas sa ville. Hein, donc, mais bon, tout ça pour te dire que je comprends tout à fait les supporters et je suis le premier à dire que je n'oublierai jamais tout ce que les supporters ont fait pour nous, joueurs. Mais par contre, à un moment donné, quand tu es club, que tu penses club, que tu veux que ton club il aille le plus haut possible, bah, t'es obligé de passer par là.
Alors, monsieur Petit, vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, il faut vivre avec son temps, je suis désolé. Autant je peux comprendre la fronde des supporters strasbourgeois et qui inscriront justement leur fronde à une liste incroyable de supporters qui se sont froissés avec leur club depuis qu'ils ont changé de propriétaire ou qu'ils ont intégré justement des multipropriétés. En France, en Ligue 1, c'est 60% des clubs de Ligue 1 qui sont multipropriétés. C'est 40% des clubs de Ligue 2 qui sont multipropriétés. Pourquoi je dis faut vivre avec son temps? Parce que autant il y a des clubs qui sont très mal gérés dans la multipropriété et qu'on a assisté à des fiascos totaux dans la gestion, mais sur le plan économique, on a failli avoir on a eu des clubs qui étaient en dépôt de bilan, comme le Red Star, par exemple, où on a failli avoir aussi l'Olympique Lyonnais, qui était un grand dinosaure du foot
Bordeaux
français.
Aussi, hein.
Bordeaux également. Ce sont les mauvais exemples, mais à chaque fois qu'on parle de multipropriété, on a l'impression qu'on porte l'étendard, justement, contre une espèce de dérive du foot business, alors qu'il y a aussi des très belles choses qui sont faites au sein de la multipropriété.
Qu'est-ce que tu leur reproches aux supporters?
Ben moi, je leur reproche que déjà, si vous voulez vraiment faire grève, ne venez pas au stade.
Ah bah, première chose. Ils font grève, donc.
Ben, ne venez pas au stade. Allez au bout de votre logique, ne venez pas au stade. Et puis, je crois aussi qu'il faut poser la question à tous les supporters du RC Strasbourg. Moi, je me rappelle Strasbourg quand ils étaient en national, que Marc Keller, qui était un super président et qui l'est toujours, a porté haut et fort les couleurs du RC Strasbourg, alors que personne n'avait confiance justement en son projet et qu'ils ont arrivé petit à petit, année après année, à franchir les étapes et à revenir dans l'élite du foot français. Ils ont eu justement l'agglomération et autour et des entreprises qui ont aidé aussi. Mais à un moment donné, quand tu veux exister, il faut le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Même si tu as de très belles idées, c'est ce qu'ont eu le RC Strasbourg pendant des années pour faire renaître ce club-là. Il leur faut aussi d'être convaincant. Aujourd'hui, ils sont dépendants des propriétaires de Chelsea, Blouko. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Je vois des abonnements qui, historiquement, n'ont jamais été aussi hauts. Je vois un club qui revient après 20 années dans l'anonymat le plus complet sur la scène européenne. Je vois une équipe qui performe aujourd'hui, qui est sur le podium de Ligue 1. Je vois une équipe qui forme des joueurs, même si elle est la petite filiale du Chelsea, mais qui a investi le plus gros paquet d'argent sur le mercato cet été, alors même devant le Paris Saint-Germain. Je vois en fait une multipropriété qui fonctionne bien parce qu'il y a Marc Keller également qui fait le lien, qui est le garant de tout ça et qui aime profondément son club. Donc moi j'entends la perte d'identité que disent le foot business qui vient s'installer. Mais moi je leur pose une question. Je leur pose une question tout simple. Vous pensez vraiment que c'est ce que pensent tous les supporters de Strasbourg? Non.
Non.
Une grande majorité des supporters de Strasbourg ne sont pas en accord avec les ultras à l'heure actuelle.
Tu as raison.
Parole à la défense, Maître Roten.
En fait, c'est très facile pour moi parce que ils ont sorti des banalités, les deux là. Moi, en fait,
c'est factuel.
La grande différence.
Et on n'est pas populiste, Monsieur Roten.
Et c'est pour ça que j'oublie pas, c'est que moi, je reste très attachés au club comme ça, avec une histoire, avec une identification. Et que les garants de tout ça dans n'importe quel club, que ça soit à Bastia, et Tony le connaît bien, que ça soit au Paris Saint-Germain, à Marseille, partout, tous les gros clubs où il y a une grosse identification au club, Strasbourg, en effet, avec tout ce qu'ils ont connu, ça a été le cas sur quand ils étaient l'année en 5e division, en 4e division, en 3e division, du moins en national, et vice-versa. Ils ont suivi, et grâce, et Marc Keller, il le sait, grâce à ses supporters qui sont encore là aujourd'hui, qui font régner une ambiance particulière à la Méno. Et la vérité, c'est ça. Pourquoi Strasbourg arrive à faire quelques coups, abattre des grosses équipes, c'est parce qu'il y a une ambiance de malade. Donc, il faut aussi reconnaître que ils te servent, parce que le football, c'est sur le terrain, mais c'est un spectacle aussi en dehors du terrain et dans les tribunes. Moi, je trouve que l'ambiance qu'il y a à Strasbourg, elle est remarquable. La Méno, même à mon époque, et pourtant c'était pas un Strasbourg avec les moyens d'aujourd'hui. Et ça, en effet, Manu et Tony, vous avez raison. Le propriétaire de Chelsea a racheté Strasbourg. Peut-être que c'est la petite filiale, en effet, de Chelsea. Il y a pas de souci, mais n'empêche que il met en place une équipe compétitive, et tant mieux. Tant mieux pour les supporters, pour ceux qui s'identifient à ce club-là. Mais aujourd'hui, les supporters, ils peuvent plus s'identifier aux joueurs, parce que de toute façon, ils savent que le joueur qui va briller, c'est comme ça. Mais il faut vivre avec son temps. C'est la vérité, elle est là. Le joueur qui va briller, il va se barrer. Ok, et mes gars, il y a pas de problème, il va partir. Et tant mieux, parce que ça fait quelques années qu'il est là. Il brille et il le mérite. Le problème à ça, c'est que pourquoi ils se braquent, les supporters? C'est que pour moi, ils ont fait une erreur avec la photo.
Ça, oui, je suis d'accord. La avec photo là-dessus, dans la communication, ils ont fait une erreur.
Donc
la photo des mégas avec le mec.
Oui, là-dessus, ça a été une erreur.
Au lieu de rentrer dans le dialogue, et c'est ce qui se passe à Strasbourg.
S'accrocher à ça.
Ce qui se passe aussi dans les autres grands clubs, le rapport avec les supporters, c'est qu'il y a pas de dialogue, Manu. Et il est là le problème, et Manu et Tony. Il est là le problème. S'il y a eu un dialogue, peut-être mais que ça, rigoles, ça aurait évité.
Non, je vais regarder la politique du club avec Marc Keller, je vais des supporters ultra. Regarde tout ce qu'ils ont fait pour Manu, eux, Manu, leur donner justement Manu, des prérogatives qui étaient à eux de gérer les choses, aujourd'hui Manu, sont revenus à cause
Manu,
de ça d'ailleurs.
Comme quoi il n'y a pas de dialogue, parce que sinon, s'il y avait eu un dialogue, peut-être qu'ils n'auraient pas sorti des banderoles aussi fortes. Allez. Parce que ça voudrait dire que Marc Keller et les dirigeants auraient reconnu une maladresse.
Keller, il adore le club.
Attends, je finis là-dessus.
Quand je vois les déclarations des supporters envers Marc Keller,
Manu, je t'ai laissé parler. Je te dis juste que le rapport, il faut de la communication, il faut reconnaître aussi que les dirigeants, et Marc Keller en a fait partie, en fait partie, qu'il y a eu une forme de maladresse avec Emega. Je pense que s'il y a eu un discours dans ce sens-là, ça aurait empêché certaines banderoles, et surtout ça aurait montré aussi aux supporters qui font régner une ambiance incroyable à la Méno, qui sont importants pour le RC Strasbourg. Mais au contraire, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, alors vous, on va vous sanctionner, plus de banderoles, plus de ceci, nous on contrôle le local, le ceci. Mais pourquoi ils le faisaient pas avant? Cyril, parce que ça les arrangeait en fait qu'ils mettent une ambiance comme ça. Donc qu'ils fassent grève et qu'ils viennent pas pendant quelques matchs, ils ont raison.
Est-ce que c'est Jérôme qui défend les supporters, ou alors Manu et
non,
et Tony
c'est pas
qui
les supporters, ce sont les ultras, c'est pas tous les supporters, ne mettez pas tous les supporters dans le même sac.
On l'a précisé.
Non, tu l'as pas précisé.
Tu laisses parler
le nom
de tous les supporters.
Alors tu vas laisser pas.
Tu as raison.
Non, mais dites les choses.
Le juge, on ne lui parle pas comme ça.
La majorité des supporters ne sont pas d'avis.
On a du même avis que les ultras.
Tais-toi.
Vas-y, Cyril.
Tais-toi.
Alors moi je suis plus modéré, parce que je soutiens Jérôme Rotten, mais je comprends aussi les avis d'Emmanuel Petit et de Tony Vérel. Juste à Tony Vérel, t'es aussi supporter de Nancy. Nancy, c'est une multipropriété, ça a été géré n'importe comment par des tocards. Si les ultras n'étaient pas intervenus, on aurait encore Gauthier Gannet à ce tour-ci. Donc les ultras ont quand même une part de responsabilité dans ce qui se passe. Après, je leur donne pas raison sur tout. Moi, la banderole sur Marc Keller, je l'ai compris parce que je sais pourquoi il le faisait. Malheureusement, le grand public ne l'a pas compris. Sur Emega, j'ai envie de dire, pour le Racing Club de Strasbourg, il n'y a pas eu d'erreur, parce qu'il n'y a pas une seule remontrance faite à Emega, pour moi, qui n'aurait pas dû faire cette truc. On aurait annoncé sur Internet juste, il s'en va en fin d'année, mais le joueur, souhaitant rester concentré sur la saison, signera son contrat en janvier.
Bon, voilà.
C'est un problème.
Ouais, exactement.
C'est juste de la communication. Sauf que là, le problème, c'est que c'est parti dans des proportions, mais c'est incroyable. Et là, c'est plus une question de multipropriété que réclament les ultras. C'est pas que les ultras, c'est quatre groupes d'associations. Il y a des groupes d'associations de supporters qui se sont associés aux supporters, dont la mienne, dont je fais partie. Mon pote est d'ailleurs passé dimanche soir pour en parler.
Okay.
On se demande, on ne sait pas où ça va en fait. Moi-même, le projet, je ne le comprends pas.
Tu donnes la victoire à Jérôme, du coup.
Ah oui.
Non, parce que je comprends aussi l'avis d'Emmanuel Petit, c'est aussi normal.
Faut que tu tranches, t'es juge.
C'est un non-lieu.
Je vais plus donner, mais regarde, il y a un communiqué des ultras qui était tombé qui donne un boulevard à Marc Keller pour que demain ça chante. Ils le disent bien. Là, c'est plus une question de multipropriété, c'est une question des restrictions qui ont été imposées.
Mais oui, c'est ça.
S'il n'avait pas fait les restrictions, vous avez là. je termine juste. S'ils n'avaient pas mis les restrictions avant le match contre le Paris FC, on aurait peut-être eu 15 minutes de grève, mais c'était pas grave, c'est 15 minutes. Bon. Ça fait chier un peu tout le monde, mais il y a moins de 75 minutes d'ambiance. Et je pense que demain, Marc Keller doit aller parler. Ils ont dit où ils étaient, ils sont à la fédé des supporters. Il doit aller parler. Le lave-salle, il doit se laver.
En famille,
et pas en public. Et là, ça
voilà.
Prend des
points.
Merci,
Cyril.
Merci, Cyril. Allez,
dans un instant,
Strasbourg.
Et dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme. Allô, Jérôme, avec Jean-Louis Lécal, directeur sportif du RC Lens, qui nous avait rendu visite. À tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC à partir de 19h. Vous allez revivre l'épisode du jeu de la vérité avec Pascal Olmeta. C'était passionnant. Plein de questions sans tabou posées à notre grand Pascal. Ne loupez pas ce moment, c'était fantastique. Mais tout de suite, on démarre avec le Allô Jérôme et l'intervention au mois de septembre du grand Jean-Louis Léca, directeur sportif lensois. Il était revenu notamment sur l'embrouille entre Lens et Auxerre autour du cas Sinayoko.
RMC, Rotten sans flamme.
Allô Jérôme.
Tous les soirs, 18h45 sur RMC, un acteur du foot s'invite dans Rotten sans flamme, soit un joueur, soit un entraîneur, soit un dirigeant, soit un supporter. Si vous voulez réserver votre place, le numéro WhatsApp est ouvert pour une note vocale 06 12 424 424. L'homme qui s'invite ce soir a réalisé un beau mercato au Racing Club de Lens. C'est donc Jean-Louis Leca, le directeur sportif Jérôme, qui est avec nous.
Salut Jean-Louis. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission, d'avoir le meilleur gardien corse de l'histoire. C'est ce qu'on disait. Donc, on est avec Pascal Olmeta.
Non, c'est Pascal. Je ne peux pas dire oui.
Bonjour Louis, comment vous êtes-vous?
Bon, ça y est, il va nous parler corse.
Non. Bah, et tout.
Bon. Bah, amigo.
Bon, Jean-Louis, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu es déjà content de ton premier mercato en tant que directeur sportif?
Content, ça va être forcément le terrain qui va le dire. Après, ce que je sais, je suis content du boulot avec les équipes parce que content simplement pour une chose, c'est parce qu'on a donné le maximum et qu'on pouvait pas plus donner. Donc déjà, on peut se regarder dans une glace et on a fait du Lens, c'est-à-dire charbonner et donner le maximum.
On a vu qu'il y avait eu des difficultés à trouver cet attaquant. Comment tu peux nous expliquer un peu l'histoire de Sinayoko? Parce que là, pour être totalement transparent avec toi, nous, on a eu du mal à comprendre.
Je peux rappeler un peu les faits d'ailleurs. Jean-Louis pourra peut-être confirmer. C'est juste préaccord entre Lens et Auxerre, même une fleur de la part du RC Lens qui laisse Sinayoko aller disputer le match à Nice. D'ailleurs, Sinayoko a marqué un but ce jour-là. On était en fin de semaine. Début de semaine, changement d'avis côté Auxerrois. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Jean-Louis?
On cherchait un attaquant forcément et le petit faisait partie des listes. Donc on s'est penché dessus, on a vu qu'il y avait Nice qui était sur le joueur et derrière ça, on a vu qu'il y avait des problématiques. Donc moi j'ai dit pour frustrer personne et décevoir personne, je vais prendre ma voiture et je vais me déplacer. Donc je me suis déplacé, j'ai demandé un rendez-vous au dirigeant auxerrois, je demandais plus tard même si je pouvais parler au joueur, si mon entraîneur pouvait parler au joueur. On a fait les choses dans les règles parce que Auxerre avait attaqué Nice soi-disant parce que les choses n'étaient pas faites dans les règles. Mmh. Donc nous on a fait les choses différemment et on s'est déplacé, on n'a même pas fait ça par téléphone. J'ai été manger avec le directeur sportif et le président à Auxerre. Ça a duré 3 heures. On a fait une négociation de 3 heures à table qui s'est très bien passée. On s'est levé au bout de 3 heures. On s'est serré la main. On s'est dit, voilà, il y avait 3 conditions. C'était que forcément, le prix, et ils étaient contents vu qu'ils avaient validé le joueur. La deuxième condition, c'était qu'il puisse jouer parce qu'il me montrait une capture d'écran que le matin, le coach avait fait une déclaration en disant, c'est pas possible, il faut qu'il joue avec nous parce que regarde, même le coach a fait la déclaration qu'il sera là à Nice. Et la troisième condition, moi, je voulais que ce soit écrit et que ce soit acté, qu'il y ait aucun problème. Donc, voilà. Donc, on s'est serré la main. Je leur ai dit une parole. Je leur ai dit, voilà, on est des hommes et j'espère qu'on restera des hommes. J'ai serré la main à des gens qui m'ont regardé dans les yeux et qui m'a dit, on est des hommes ici à Auxerre. Apparemment, c'était pas des hommes. Et puis, ils ont écrit le draft. Ils nous ont envoyé un draft avec prévu de faire la visite médicale. Le gamin pouvait voyager le 24 après le match. Tout était OK. Et puis, le dimanche en partant au Havre sur la route. Voilà, ça a été discussion au téléphone avec des gens qui savaient plus où se mettre, mais tu comprends, mais ceci, mais cela, mais non, mais c'est la photo aux agences, c'est la photo ci, c'est la photo ça. Enfin, des gens qui ont simplement pas respecté leur parole et qui sont simplement pas des hommes, tout simplement. Donc, je leur ai dit ma façon de penser.
Est-ce que tu avais l'accord du joueur? Est-ce que le joueur était OK pour venir à Lens?
Alors, j'ai fait un rendez-vous au McDonald's à Auxerre avec le joueur. Donc, le joueur était OK. Le dimanche, le joueur était sur Paris. Le dimanche, le joueur était sur Paris et avec son agent pour venir chez nous. Et quand ils ont fait ce coup bas, je dirais, pour être poli, quand ils ont fait ce coup bas, ils nous se sont empressés de nous envoyer un mail à 15h en disant on interdit le joueur de voyager. Et puis ils ont menacé le joueur en lui disant que s'il voyageait, il y aurait des choses intentées contre lui, contre le club. Donc le petit, lui, voulait venir, il savait plus où se mettre. Ils l'ont pris en otage un petit peu. Et puis voilà. Puis nous, après, quand on a vu ça, j'ai dit stop. On va pas s'abaisser à des choses comme ça. On sort du dossier. On traite plus avec des gens comme ça. Voilà. On n'est pas des gens.
Non, mais c'est dingue ce que tu racontes parce que franchement, ça fait froid dans le dos d'entendre ces histoires-là.
Il y a pire, Jérôme.
Non, mais c'est froid dans le dos parce que quand tu as des gens face à toi qui te donnent un accord et tu leur serres la main et tu pars, et même en fait moi quand je te dis froid dans le dos, je me mets à la place du joueur, je me mets à la place de Sinayoko qui aujourd'hui est pris en otage alors qu'il fait un métier, une passion qui est fantastique, le football, que tu décides, en effet, le joueur, comme tu l'as dit, décide de partir à Lens. Il est sur Paris et on l'interdit de voyager, de revenir. En fait, voilà.
C'est, alors qu'il a marqué la veille pour aider son club.
Tu peux que leur en vouloir à ces dirigeants-là.
Oui, mais avec moi, ils traitent
Jean-Loup,
avec moi.
Dans les raisons qui ont motivé ce revirement, Quelle est la raison principale? Il y a quelque chose qui tient la route ou pas?
Non, j'en ai tellement entendu des vertes et des pas mûres que c'était... Ouais,
mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont bien dit quelque chose, ni vert ni mûr, ils t'ont dit...
Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de parole.
La version qu'on a eue, messieurs, c'est que Christophe Pelissier voulait impérativement le garder, il a tout fait pour, il a dû mettre la pression à ses dirigeants et ils ont fait volte-face devant Jean-Louis. Est-ce que tu y crois, Jean-Louis, à cette version?
Je peux y croire, je peux ne pas y croire. J'ai entendu cette version, j'ai entendu le président qui mettait le veto, j'ai entendu le joueur ne veut plus venir, j'ai entendu... Enfin, chaque fois qu'on m'appelait, il y avait une version différente. Donc après, quand on est pris un peu pour un imbécile, on dit stop et restez dans votre chose. Bon, ce que je sais simplement qui n'est pas sorti, c'est que le joueur, par exemple, le soir du match à Nice, a fait ses adieux dans le vestiaire, ses copains, tout ça. Quoi. Donc, là où c'est pas bien, c'est que le joueur est un bon gamin et je pense que si on m'avait fait ça à moi ou à Pascal en tant que joueur, ça se serait passé différemment. Ça se serait passé différemment. Mais quand on a affaire à des bons gamins comme ça, là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des clubs qui agissent vraiment très très mal et qui ont pas de. Alors moi, je veux bien qu'on prenne et qu'on fasse de la com en disant que les super présidents, les super ceci, les super cela. Mais quand on n'est pas capable de regarder quelqu'un qui a fait 8 heures de route aller-retour et de lui serrer la main, on est des hommes, patati patata. C'est pas mon éducation.
Bon, en parlant d'hommes et d'être dans le positif, moi je voulais parler du retour de Flo Thauvin, champion du monde, qui revient après
tellement vu des hommes avec des strings.
C'était peut-être le cas, Pascal, t'as raison.
J'en ai vu 100 strings même.
Mais là, papy, ça te regarde. Si tu prends la pilule, tu sais plus où tu le mets, là, on est mal.
Le gros coup de l'été quand même. Pour Lens, c'est le retour de Flo. Et là, quand tu parles de parole, il me semble quand même, parce que Flo Thauvin l'a expliqué, vous étiez parlé il y a quelques mois, tu dois être très content d'avoir fait ce coup-là.
Et comment tu l'as fait?
En fait, ce coup-là, il remonte vraiment à il y a un an. Parce que il y a un an, quand j'arrête ma carrière et que j'entame ma carrière de dirigeant où je suis coordinateur sportif, Will Steele veut un joueur qui joue côté droit, faux pied, et on cherche avec la cellule tout ça, et on est on est on cherche, on mouline, on n'arrive pas. Et puis je suis en Corse parce que je suis rentré pour un mariage et je vois une story de Flo qui est là. Putain, je me dis merde, c'est Flo en fait le joueur. Mmh. Et je savais que j'avais gardé tout le temps contact avec Flo, le Mexique, toutes ces choses là. Et je l'appelle, je lui demande comment ça va, il faut qu'on se parle demain. Et la nuit, il est sorti une vidéo sur les réseaux sociaux qu'on m'a envoyé. C'est vrai ce qu'il dit. J'ai passé toute une nuit à regarder sa saison à Udinese en fait. Mmh. Et j'étais persuadé que bon, sauf que cette année-là, ce mercato-là, ça s'est pas fait. Donc après, Flo a fait la saison qu'il a fait l'année dernière où il a fait 10 buts et 8 passes décisives, quelque chose comme ça. Et puis au début de l'année, quand il y a un peu ce chamboulement, qu'on prend un peu le chantier avec Ben, et on se dit waouh. Et Ben, c'est Ben Parot qui me dit, mon directeur général, qui me dit: Jean, tu devrais relancer Flo. Mais pour moi, c'était impossible.
Ouais, c'est pas possible.
Avec la saison qu'il venait de faire et toutes ces choses-là. Et puis Ben, il venait me dire mais oui. Et puis j'appelle Flo.
Qu'est-ce que tu lui dis pour le convaincre?
Moi, au début, tu l'appelles pas pour le convaincre. Tu l'appelles, c'est un petit appel. Ça va, frérot, comment tu vas? Ouais.
Et après, alors?
Et puis, tout doucement, on rentre dans le vif du sujet. Et je lui parle du club. Donc, lui m'avait félicité un mois et demi avant parce que j'avais été nommé, tout ça. Et moi, je lui avais envoyé un petit pic, mais j'y croyais pas, sincèrement, j'y croyais pas. Et puis après, à force de rentrer dans ça, d'entretenir, et puis j'avais dit à la com m'avait fait une super vidéo du club, des installations, des supporters, tout ça. J'avais dit, regarde où tu aurais pu jouer, tout ça. Et puis c'est fou parce que dans cette vidéo, il y a un supporter qui a une écharpe Lens Udinese, improbable en fait, tu vois.
Incroyable.
Ouais, je te jure. Et on est resté dans ça et Ben m'a tellement poussé que j'ai dit bon ben je me lance.
Allez,
et quand on s'est lancé, ça a duré peut-être 10 ou 12 jours, mais on n'a pas parlé une seule fois de possibilités financières. Il m'a posé des questions que sur le club, sur les supporters, sur les gens, sur les installations qu'on avait, sur le stade, sur les coéquipiers, sur le groupe, sur les anciens, sur les jeunes. Que ça, c'était que ça. Et quand tu vois aujourd'hui les efforts qu'il a dû faire pour revenir au haut niveau, parce que c'est être passé par le Mexique et derrière l'Italie, aujourd'hui il a un corps, je pense que même pas à 25 ans il était comme ça, c'est Rocky le mec, c'est Rocky. Et il est passionné de ce qu'il fait, et puis ce qui me fait vraiment plaisir par-dessus ça, les gens qui le connaissent vraiment comme Jérôme, Flo c'est un bon mec. Les gens ils avaient une image d'un petit con, il faut dire la vérité, alors que c'est quelqu'un d'empathique.
Même que Jérôme.
C'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un simplement quand il est pas content, il le dit. Et puis nous, on s'est vite compris quand on s'est rencontrés il y a 10-15 ans parce que nous les Corses on est comme ça et on accueille les gens, on les écoute. Et quand ça va pas, par contre, on le dit aussi. Mais je suis content parce que ce club-là, c'est ça. C'est de la solidarité, c'est de l'entraide, c'est du savoir-vivre ensemble et c'est charbonné. Et aujourd'hui, Flotte au vin, c'est ça pour les gens qui vont, bah, c'est vont le redécouvrir.
Ouais, mais c'est génial. En tout cas, bravo Jean-Louis, pour ce coup-là. Ça fait plaisir de le retrouver. Merci beaucoup d'être venu dans Rotten sans flamme. C'est ta première en tant que directeur sportif, donc je t'avais promis que je te mettrais en lumière.
Hein. Et merci d'être venu. Ouais.
Merci à vous.
Jean-Louis.
Oh.
Jean-Louis, passe le bonjour à toute l'équipe, à Blanchard et tout, parce que j'ai fait deux matchs, les deux saisons pour mon association. Des gens extraordinaires. Merci.
Ce sera fait.
Merci Jean-Louis Lacar.
Merci.
À bientôt. Je vous rassure. Et violence.
Bravo. RMC, Rotten sans flamme.
Allô Jérôme.
Tous les soirs, un acteur du foot s'invite dans Rotten sans flamme. Ce soir, on reçoit Robert Duverne, ancien préparateur physique de Lyon et de l'équipe de France. Bonsoir Robert.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Robert.
Merci d'être là pour ce coup de gueule dont on en parlait et cette lassitude de votre part. Il faut arrêter de jouer avec la santé des joueurs, le nombre de matchs, le risque de blessure, tout ça commence à vous fatiguer, Robert.
Bon, tout, oui, le nombre de matchs, le fait qu'on n'ait plus à se préparer pour faire des compétitions, qu'on ait tout mélangé, qu'on ait complètement sorti des plannings de la composante de l'entraînement. on est sur du n'importe quoi à tout niveau.
Comment tu le... Si tu avais à gérer aujourd'hui un effectif, on parle du Paris Saint-Germain. Eux, c'est les pires, hein, je crois. C'est 3 semaines de vacances et une semaine après de la compète.
Ouais. Ils n'ont plus rien à préparer. Alors en fait, en fin de compte, ce qui j'aurais à le gérer, je le gérerais, bien entendu. Je serais content de le gérer, je serais fier même. Mais bon, on n'a plus les mêmes problématiques du tout. On a un effectif, on n'est plus... je le gérerais en me disant qu'on va proposer du n'importe quoi au public. C'est pas tant au niveau... Il y a un risque, bien entendu, sur ce qu'on propose aux joueurs et le niveau de performance qu'ils ont à atteindre pour le faire. Mais nous, on voit rien. On voit pas de match. En fait, le risque de ça, c'est que on l'a aussi au niveau technique, au niveau tactique, au niveau psychologique. On propose plus du football, en fin de compte.
Ah, c'est de la bouillie de foot, quoi, à cause de ça.
Bah oui.
Ouais.
Bah oui, parce qu'on se prépare plus pour les compétitions. On a organisé les championnats du monde des clubs. Il n'y avait pas de phase, il n'y avait pas de moment pour préparer cette compétition. Depuis quand on ne prépare plus une compétition?
Robert, je suis d'accord avec toi, mais t'as pas l'impression que ce que tu dis, ça ne fait que répéter ce que disent beaucoup d'acteurs, notamment des joueurs et qui représentent les grands clubs européens depuis des années,
ben
et
oui.
Que ça va en s'empirant. Donc,
on exclut les gens du foot.
Mais je suis d'accord, mais ton discours est un peu utopique quelque part, parce qu'on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et que ceux qui nous dirigent n'entendent pas ce discours-là. Ils s'en fichent royalement.
Il faut bien qu'il... Ouais, mais il faut quand même que le discours il existe, parce que déjà qu'ils l'entendent pas. Donc s'il y a plus de discours, comment on va faire? Déjà qu'ils l'écoutent
mais
pas. Donc
comment
si
changer
on
comment
discours,
le changer le discours?
En faisant une union sacrée, en se disant, faut peut-être faire des états généraux du foot, je sais pas, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à vendre la Ligue 1 à personne, on n'arrive plus à vendre le foot, on va bientôt plus le vendre, ce foot. Qui s'est intéressé à la Coupe du Monde des clubs? Pas grand monde, on a regardé combien de matchs.
Mais qu'est-ce que tu proposes, Robert, justement, pour contrer tout ça et ramener justement un sentiment de justice?
Faut ramener des footballeurs dans le foot, déjà, dans l'organigramme des clubs, faut ramener des gens dans la réflexion, dans les fédérations, faut ramener des anciens footeux à l'entraînement de foot pour qu'eux, ils exposent les problématiques de calendrier, les problématiques de préparation, parce qu'eux, ils ont joué, les footballeurs.
Mais Robert,
les footballeurs, ils savent.
Je suis d'accord, mais les footeux, je suis désolé, mais
les footeux.
Ouais, oui, c'est les premiers bénéficiaires, justement, de ce système-là, ce sont les footeux. Donc,
Pourquoi on écoute RMC? Pourquoi on écoute RMC? Pourquoi on regarde les concurrents? Je les cite peu. Parce que les footeux, ils sont là. Donc, qui c'est qui nous intéresse? Les footeux. Et on les regarde plus sur le terrain, on les regarde plus en championnat, parce qu'ils sont pas là. Quand on regarde un match aujourd'hui, qui sont les acteurs qui vont s'asseoir en tribune? Est-ce que dans la tribune, il se passe quelque chose? Est-ce que sur les bancs, il se passe quelque chose? J'ai beaucoup de respect pour certains qui sont sur les bancs actuellement. Mais moi, je m'enflamme plus quand Eric Roy joue contre Bruno Genesio. Parce qu'eux, il s'est passé quelque chose dans leur vie, dans leur histoire. Ça a été de la Ligue 1. Parce que quand ils se serrent la main, il se passe déjà quelque chose. Et aujourd'hui, les Rudy Garcia, ils sont pas là. Les Laurent Blanc, ils sont pas là. Christophe Galtier, ils sont pas là.
Tu n'as pas peur que dans le contexte actuel aujourd'hui, que les supporters ne comprennent pas ce genre de discours, en sachant qu'en fait c'est un discours de milliardaires qui se plaignent en fait?
Non, c'est pas un. Bien sûr, mais les supporters, pourquoi? Parce qu'on leur propose du football de télé.
C'est ce que je te dis. Il n'y a pas d'union sacrée au sein de ceux qui font le foot.
Vous croyez que les supporters ils regardent, ils écoutent RMC?
Oui.
Ils sont sur les réseaux aussi. Ils ont les autres commentaires. Nous, on est les anciens. On a encore les réflexes des grands réseaux. On a encore les réflexes des grands qui ont parlé de foot, des grandes émissions. Mais eux, ils ont les émissions sur YouTube.
Robert,
moi, je suis invité sur ces trucs-là.
C'est ce que j'allais vous répondre d'ailleurs, Robert. Et c'est peut-être une réflexion qu'on peut se faire. C'est que on peut répondre à tous vos arguments, mais tout évolue en fait. Le foot évolue, mais le secteur médical évolue aussi.
Évolue,
on vous dit qu'au PSG, tout est surveillé. On arrive à analyser. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de blessés sur la deuxième partie de saison.
Tu récupères plus vite.
On récupère plus vite. Le secteur médicalisé est plus pointu. Donc, c'est peut-être ça aussi la différence, Robert. C'est pour ça qu'on peut jouer un peu plus aussi.
Mais tant mieux, parce qu'ils ont 5 changements, donc c'est plus la même problématique.
Aussi,
il y a plein de changements, ils ont plein d'équipes, ils ont des jeunes joueurs. Je ne suis pas du tout inquiet pour le Paris Saint-Germain. Je ne suis pas du tout inquiet. Là, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet pour eux. Je suis inquiet parce que nous, on n'a pas eu Dembélé doué dans l'équipe de France, par exemple. Je suis inquiet parce qu'on ne voit pas de bons matchs. Je suis inquiet parce que l'année dernière, la Champions League, elle a ressemblé à rien jusqu'au huitième de finale. Parce que PSG, qu'est-ce qu'ils nous ont fait en première partie pendant 6 mois? Ils n'ont rien fait du tout. Mmh. Et nous, est-ce qu'on a vu du grand PSG jouer pendant 6 mois? Non. Et pourtant, on s'abonne pour voir du grand PSG jouer.
Ouais, mais sauf
pourtant,
que là,
les gens, ils vont au stade pour voir des grands matchs.
Sauf que là, Robert, tu vois, par exemple, tu faisais référence à l'année dernière du Paris Saint-Germain, mais ça peut être dans la continuité de ce que tu as vécu aussi, toi, en club. C'est-à-dire qu'une préparation un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, parce
oui,
que...
Mais la problématique n'était peut-être pas du tout la même.
Non,
t'avais
oui,
11
non.
types qu'il fallait qu'ils durent. Et t'avais quand même moins de changements. T'avais quand même pas du tout les mêmes choses. Donc
c'est vrai.
Qu'il faut pas comparer. Ça, je suis d'accord.
Oui,
faut
mais,
pas comparer.
Mais sauf que on sait très bien, et je donne la parole à Tony, mais Robert, on sait très bien que c'est pour ça que moi c'est intéressant de t'avoir, parce que quand on voit des blessures de Dembélé, Doué par exemple en équipe de France, et certainement d'autres, je leur souhaite pas aux joueurs parisiens.
Chelsea aussi, hein, ceux ils ont blessés.
Oui, mais ceux qui n'ont pas eu de préparation. Bien sûr que certainement que les blessures musculaires, il va y en avoir. Si c'est que des blessures musculaires, et je leur souhaite que ça soit que ça, parce que ça peut être plus grave. Mais parce que le rôle aujourd'hui du préparateur physique, tu viens de le dire, c'est peut-être de la bouillie, mais ça n'aurait plus rien à voir avec le rôle que toi tu avais ou que vous aviez à l'époque.
Bien sûr que non, bien sûr, mais bien entendu. Mais bien entendu.
Mais, alors,
mais déjà, on en a trop fait autour de notre rôle.
Merci Robert Duverne d'être venu, en tout cas, dans l'antenne sans flamme.
Dans un instant, autre grand moment de radio, celui de Pascal Olmeta et de son jeu de la vérité. À tout de suite sur
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.